Catherine le matin. 106.9 Mauricie. Que la Mauricie se
lève. Bonjour docteur Marquis.
Bon matin.
Bonjour, merci encore d'être là avec nous ce matin. Docteur Marquis, bon, vous savez, ce matin, vous vous adressez aux gens de la Mauricie, centre du Québec. On fait partie, notamment, l'hôpital de Trois-Rivières, là, qui est un hôpital où la situation devient de plus en plus critique. 50 d'hospitalisations dans la région. Alors, on est pratiquement là, sur le... On est près d'atteindre le point de saturation. Docteur Marquis, je pose la question en premier lieu. Je regarde les hôpitaux touchés, Trois-Rivières, un dans la Naudière, Longueuil. Il n'y a aucun hôpital... aussi critique sur l'île de Montréal. Comment on l'explique? Coudon, faites-vous mieux ça que nous autres?
Je pense pas qu'on fait ça mieux. Je pense qu'il y a deux éléments différents. Le premier, c'est qu'en pratico-pratique, même si chronologiquement, on est dans la deuxième vague, vos régions réagissent plus comme une première vague parce que vous aviez été comme plus épargné au début. Et à Montréal, l'autre chose, c'est que comment je pourrais dire? Parce qu'on a été si durement touché, ben naturellement, tu peux juste l'attraper une fois. Là. Fait qu'il y en a plusieurs qui ne peuvent pas la réattraper. Mais probablement que juste dans les hôpitaux, parce qu'on est plus rodé, je pense que c'est peut-être juste une question d'expérience. Ah ouais? Tu as beau lire 1000 livres sur la bicyclette, il faut quand même que tu embarques sur une bicyclette une fois dans ta vie. Je pense qu'un peu de ça, là, où les hôpitaux font leur expérience, la population fait son expérience, et ça vous donne un feeling de première vague.
OK. Dites-moi, docteur Marquis, dans un contexte, bon, puis je le ramène chez nous encore, là, on est en un total de 50 sur 56 places actuellement, là, Trois-Rivières et Drummondville. Il y a deux personnes qui ont été transférées aux soins intensifs. À partir du moment où un hôpital dont atteint le point de saturation, le plan de match, c'est quoi? C'est qu'on envoie des patients ailleurs. Hier, le premier ministre parlait de délestage, donc on fait de la place. Il y a des chirurgies qui vont attendre, des traitements qui vont attendre. Mais c'est quoi la chronologie des choses?
Ben en fait, c'est pas une chronologie, c'est simultané. C'est que okay. La première des choses, c'est qu'au niveau des soins intensifs, là, qui est vraiment la zone que je connais le plus, on a un système de réseau où le gouvernement sait à tous les instants combien il y a de lits disponibles de soins intensifs dans tous les hôpitaux du Québec. OK? Plusieurs fois par jour, c'est mis à jour. Et donc, à partir de là, si un patient ne peut pas rester dans sa région, peu importe la raison, que ce soit parce qu'il n'y a plus de place ou parce qu'il a besoin d'un traitement spécialisé qu'on ne peut pas offrir dans son hôpital, il y a toute une mécanique extrêmement rapide qui se met en branle et on lui assigne un nouvel hôpital et le transport est organisé. Là où ça peut être problématique, c'est que des fois, avec les patients qui ont la COVID, le patient peut être tellement malade que le transport lui-même est un problème. Ça, c'est des cas très particuliers. Maintenant... Ouais. Pour les patients qui ont besoin d'une hospitalisation COVID, il y a un système un peu similaire aussi. C'est qu'on n'a vraiment pas un système qui est en série, mais en parallèle, et on essaie de moins transporter les patients, parce que quand on transporte un patient, c'est un défi pour les familles, mais il y a toujours un risque dans un transport. Il faut trouver la balance entre laisser le patient dans son hôpital d'attache et le sortir avant que l'hôpital soit saturé. Et c'est cette gymnastique-là qui doit être faite par les gens de l'hôpital.
Docteur Marquis, on entendait le premier ministre hier nous parler des rassemblements, notre contrat moral. Là, ils vont statuer le 11 décembre, mais je reçois beaucoup de choses ce matin. Les gens nous écrivent beaucoup. Il y en a plusieurs qui nous disent, nous, là, on reste en bulle familiale, on va rester à la maison, c'est la décision qu'on prend. C'est pas tout le monde, mais il y a une forte majorité des auditeurs et auditrices qui nous disent ça ce matin. C'est parce qu'on est déchirés, docteur Marquis, parce que, tu sais, il y a l'aspect santé physique, puis je vous ai entendu là-dessus hier, puis il y a l'aspect santé mentale. Mais comme médecin, là, pour la santé physique, on reste chez nous.
Ah, c'est officiel. Pour la santé physique, la solution est ultra simple. Ça devrait être de chacun rester chez soi avec sa petite bulle très, très, très immédiate et le moins de rassemblement possible. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre famille, à votre région, à votre province. C'est de rester tranquille cette année, là, puis de dire, on se défoncera l'année prochaine, mais cette année, on reste en dessous d'une roche.
OK. Docteur Marquis, aujourd'hui, on va annoncer de nouvelles règles ou des recommandations pour notamment le magasinage des fêtes. Là, ça s'active pas mal, les centres commerciaux. Et je vous parle d'une expérience personnelle, puis vous réagirez par la suite. En fin de semaine, je suis allée faire quelques commissions. Puis j'essaie, tu sais, de pas être longtemps, puis dire OK, 1, 2, 3, je sais où je m'en vais. Mais savez-vous ce que j'ai réalisé? C'est que pendant la courte période, j'ai peut-être été là, mettons, 45 minutes, je me suis touché le masque. Tu sais, veux pas, plus t'es longtemps à un endroit, entre guillemets, moins... Tu sais, je me suis lavé les mains, on se lave les mains à chaque fois, mais on a le réflexe de oups, ben, je me suis touché les yeux, je me suis touché... Tu sais, on le réalise pas tout le temps. Ça se peut-tu que plus on est longtemps, moins on fait attention?
Oui, absolument. Et c'est un entraînement qui est très difficile dans le système de santé d'apprendre à pas se toucher le visage quand on est en salle d'opération ou dans des lieux stériles. Fait que je reconnais que c'est pas un réflexe qui est facile, puis que faut pas minimiser la difficulté. Il y a l'autre élément aussi chez les gens qui butinent d'un magasin à l'autre. Là, faut comprendre, on rentre dans le premier magasin, plus, 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 on se nettoie les mains, on fait notre magasinage. En ressortant, on se nettoie pas toujours les mains non plus. Et là, on va mettre les choses dans notre véhicule, on s'assoit dans le véhicule, et quand on s'en va vers le deuxième magasin, qu'est-ce qu'on fait? On a enlevé notre masque. Donc, on s'est manipulé le visage, on a manipulé notre masque, on s'est touché au visage entre deux magasins après avoir taponné un paquet d'affaires sans s'être lavé les mains. Ouais. Et moi, je crois personnellement, naturellement, on n'a pas d'études là-dessus, là, mais je crois personnellement qu'une grande partie de la contamination dite de magasinage qui se fait à ce moment-là, quand les gens rentrent dans leur véhicule et enlèvent leur masque sans s'être relavé les mains, d'avoir avec eux autres un petit contenant là, de gel alcoolisé ou quelque chose pour se laver les mains. Je pense que c'est là que ça se passe.
Docteur Marquis, bon, c'est vous le spécialiste, c'est pas moi, mais dans ma réflexion cette semaine, je me disais ceci. Bon, cet été, on a eu une accalmie, bon, puis après ça, il y a eu l'automne, tu sais, bon, les gens retournent, les jeunes retournent en classe pour la plupart, le retour au travail, et là, ces temps-ci, bon, commence à faire plus froid, on reste davantage à la maison. La météo a-t-elle un impact sur ce qui se passe actuellement?
Oui, ça a été, c'est bien démontré, en fait. Dès qu'on a une météo qui favorise les attroupements à l'intérieur, le taux de maladies contagieuses par gouttelettes augmente. C'est une réalité qui a été bien, bien, bien démontrée avec la bonne vieille grippe, l'influenza. Mais là-dessus, la COVID a le même mécanisme.
OK. Docteur Marquis, je vais vous faire entendre notre collègue Jonathan Trudeau, là, qui était en commentaire avec nous à 7h50. Il est revenu sur un point du point de presse hier. Je vous le fais entendre, puis par la suite, on en discutera ensemble.
Et moi, le chiffre hier, Catherine, puis je l'ai partagé aux auditeurs de Trudeau-Landry hier après-midi, qui m'a fessé dans la conférence de presse de François Legault, c'est lorsque le ministre de la Santé nous a rappelé que, bon, il y a encore 130 000 Québécois là, qui sont sur des listes d'attente, qui ont vu leur chirurgie reportée suite à la première vague. Et ce que Christian Dubé a rappelé, c'est que si on avait voulu rattraper ce retard-là dans les prochains mois, il aurait fallu qu'on roule à 115% de notre capacité dans les salles d'opération au Québec. Or, la deuxième vague a fait en sorte qu'on est redescendu à 80% de notre capacité, pas parce qu'on veut pas, parce qu'il y a du personnel, par exemple, du soins infirmiers dans les salles d'opération qui sont prêtés à d'autres départements qui, eux, sont affectés par des éclosions auprès du personnel, etc., etc. C'est une espèce de cercle vicieux, un effet domino. Bien, ça fait en sorte qu'à 80%, ça veut dire que le 130 000, il s'améliore.
Docteur Marquis, chez vous, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, vous êtes à quel pourcentage?
Je ne sais pas par cœur, parce que moi, étant aux soins intensifs, je ne m'occupe pas de la gestion des salles d'opération, mais je sais, c'est certain qu'on n'a pas rattrapé notre retard. Il n'y a aucun hôpital au Québec, que je sache, là, qui a réussi à améliorer beaucoup sa performance. Pendant l'été, on avait vraiment fait les bouchées doubles. Tu sais, quand on disait qu'il n'y a personne dans l'été dans le système de santé qui avait vraiment eu un été, c'est qu'on avait amélioré ce retard-là. On avait vraiment donné des bouchées doubles en prévision de l'automne. Mais là, avec la pandémie qui reprend du poids de la bête et ce qu'on s'attend pour le temps des fêtes puis début janvier, je suis prêt à parier qu'on va reperdre ce semblant d'amélioration qu'on avait eu. Puis ça, c'est très dommage parce que ça va faire que c'est des gens, même si là-dedans, il y a plein de chirurgies électives, c'est des chirurgies de qualité de vie, hein. Demander à n'importe qui a besoin d'un genou et d'une hanche, ça y tente d'attendre encore un an. Mais en plus de ça, c'est que ça en fait des victimes collatérales de la COVID. Ils n'ont jamais attrapé la COVID, mais ils ont un impact direct sur leur santé de cette pandémie-là. Et ça, c'est des gens qu'on oublie, là.
Oui. En terminant, docteur Marquis, vous êtes vous-même médecin autour de vous. Il y a une fatigue qui s'installe. On a vu le chiffre hier, il y a au-delà de 6 000 personnes qui travaillent dans le milieu de la santé, qui sont soit en arrêt de travail, en arrêt préventif, qui ne sont pas actuellement au travail. Vous regardez les choses aller, là. Craignez-vous qu'on parle de 7 000, 8 000, 10 000 dans quelques semaines, quelques mois, si ça continue comme ça?
Bien, je pense qu'il y en a là-dedans qui vont être capables de revenir, c'est qu'il va avoir des gains. C'est certain que c'est quelque chose qui est préoccupant. Je pense que c'est important de mettre des mécanismes pour augmenter la résilience. Une des choses qu'il faut pas oublier qui est le plus dur pour le système de santé, c'est quand les gens travaillent d'arrache-pied dans le système de santé puis qu'ils voient que la population fait peut-être pas ou qu'une partie de la population sabote les efforts de tout le monde. Ça, c'est extrêmement difficile pour nous autres parce que les gens se donnent, ils font plein de sacrifices. Puis là, ils voient une minorité, mais qui est une minorité très visible et très bruyante, qui leur disent que tout ce qu'ils font, ça vaut rien, puis qu'ils ne feront pas. Ça, c'est dur sur le moral. Fait que ce qu'on fait dans les hôpitaux, dans les milieux de santé, mais il y a aussi la réponse qu'on a qui est très différente de la première vague. À la première vague, cet immense support-là de la population, on a vraiment aidé tout le monde. Et là, on a un retour de balancier qui fait mal.
Dr. Marquis, merci encore pour ce matin. Puis, comme je dis souvent, mes invités, on lâche pas.
Merci. Bonne journée.
Merci. Au revoir, Dr. François Marquis, chef de service des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.